Merci d'être avec nous pour ce petit temps d'échange. Alors, peut-être je laisserai Olivier se présenter et présenter ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre du tiers-lieu. Peut-être deux ou trois mots sur le pourquoi on a eu l'idée de travailler sur la question des tiers-lieux, des lieux tiers, et plus largement de la question du lieu dans les questions d'accompagnement, et plus largement de la question des modalités d'accompagnement. Alors, il y a une première raison, elle est un peu circonstancielle, c'est le Covid nous a obligés à introduire des modalités différentes, et on a développé du multimodal, on a développé du nomadisme, on a développé plein de choses, et on a pu découvrir finalement les apports de tout ça, les limites de tout ça, mais aussi les apports de tout ça dans la... Et ça nous semblait intéressant de suite à cette période-là, qui n'est pas totalement terminée, de réfléchir à la question du lien entre l'accompagnement et les lieux. C'était vraiment ça le sujet. La deuxième chose, c'était vraiment la question du lieu tiers et du tiers-lieu. Pourquoi c'est important? Pourquoi l'État aujourd'hui mobilise beaucoup d'argent dans les tiers-lieux? Pourquoi il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, dans lequel Olivier d'ailleurs et le Concarlade ont répondu, dans lequel ils ont bénéficié d'un financement, donc il en dira quelque chose. Je trouvais vraiment intéressant qu'un petit lieu finalement comme le Concarlade, qui n'est pas un lieu prestigieux a priori, etc., a pu bénéficier de financement public dans le cadre d'une politique publique moins verticale, qui s'intéresse plutôt à la question de qu'est-ce que font les acteurs de terrain pour essayer d'initier quelque chose qui puisse être au service de la population d'un lieu. Ça nous paraissait extrêmement intéressant. Bien, il y a une troisième raison, et qui est peut-être une raison du coup qui moi me préoccupe, parce qu'elle préoccupe la politique publique. Je suis aujourd'hui animateur d'un comité d'innovation d'un PRIC, par exemple d'un PIC d'une région, hein, Programme Régional d'Investissement dans les Compétences. Et une difficulté qu'on a aujourd'hui, qui est une difficulté qui s'intensifie, c'est la difficulté à avoir du public sur des dispositifs qui sont particulièrement intéressants, particulièrement mobilisateurs, et dans lesquels on ne mobilise pas le public. Donc il y a une réflexion aujourd'hui de la puissance publique sur le fait que, quelle que soit la qualité des dispositifs qu'on construit, finalement, on peut ne pas toucher le public. Et dans la question du lieu, dans la question du tiers-lieu, il y a justement cette question assez centrale. D'ailleurs, Olivier évoquera la question de comment on passe finalement d'un Fab Lab à quelque chose qui est plus un tiers-lieu aujourd'hui, qui est plutôt ouvert sur le territoire, qui mixe des populations, qui anime des réseaux finalement multiples. Et ça nous semblait vraiment intéressant de travailler sur cette question-là. Donc, comment on passe du Fab Lab, comment on passe du lieu tiers, comment finalement comment les lieux tiers sont aussi des lieux apprenants sans forcément qu'il y ait de programme d'apprentissage par rapport à tout ça. Et c'était autour du Fab Lab la question finalement d'un lieu apprenant. Et puis il y a un troisième sujet qui n'est pas directement lié au tiers-lieu, au Fab Lab. Peut-être qu'on poursuivra, si ça vous intéresse, après le départ à 17h d'Olivier. C'est plutôt la question des autres formes d'accompagnement. Et je ferai référence à ce qu'on pourrait appeler plutôt des pratiques nomades aujourd'hui, avec le développement de bus, par exemple. Hein. On a des bus de possibles. Alors, Olivier, il a été impliqué tout au début dans la question des bus autour du numérique, et peut-être qu'il en dira deux mots. La question, par exemple, du jardin partagé, Lydie, on sait quelque chose aujourd'hui dans le cadre du CCAS. Et puis, on a aujourd'hui tout un développement de pratiques qui sont plutôt des pratiques, alors je ne sais pas comment les appeler, des pratiques ambulatoires, des pratiques éphémères, des pratiques. On a des marches apprenantes. On a des dispositifs de cette nature-là auxquels je ferai un peu référence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont un succès fou. Elles mobilisent des publics par rapport à ça, alors qu'on a beaucoup de mal à mobiliser des pratiques sur des pratiques plus institutionnelles. Voilà. Donc, c'est un peu l'introduction que je voulais faire. Normalement, on ne sera pas trop nombreux, donc ça permet de profiter d'Olivier au maximum, hein, et donc du coup de laisser les caméras et d'intervenir de façon avec le micro lui-même. Alors je le dis un peu en préambule, Olivier me connaît, on se connaît depuis un petit bout de temps, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans le cadre d'un financement de la Fondation de France, et j'ai eu l'occasion d'accompagner Concarlab finalement au tout début, hein, et je vous regarde grandir, et j'avoue, je suis assez époustouflé sur ce que ça a produit à partir d'une petite initiative là. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans l'histoire, parce que je la connais un peu, c'est peut-être Olivier nous raconte un peu l'histoire de comment on est passé de quelque chose qui n'était pas du tout un Fab Lab à quelque chose qui est aujourd'hui presque un tiers-lieu, et voilà, je te laisse un peu présenter présenter un petit peu l'histoire et puis on questionnera, les collègues interviendront, etc. Olivier, c'est à toi. Je sais que tu n'as pas besoin de diaporama, à mon avis, et que tu es capable de parler de tout ça avec enthousiasme. C'est à toi.
Merci beaucoup, André, pour cette superbe introduction. Il y a plein de choses à dire. C'est vrai qu'en 50 minutes, ça va être compliqué, donc je vais quand même essayer de rester synthétique. Mais voilà, bonjour à toutes et à tous aussi. Et puis, merci à André de m'avoir invité. Merci d'être présent. Pour faire assez court sur l'histoire, en fait, moi, je suis donc mon poste ici. Donc, j'habite Concarneau. Sur le territoire, c'est Concarneau, Corne d'agglomération, 9 communes. Donc, Finistère Sud, proche de la mer. Donc, il ne fait pas beau tout le temps, même si on essaye d'y croire. Voilà, on dit qu'il fait tout le temps beau en Bretagne, mais bon, là, il pleut. Donc, c'est pas génial. Mais voilà, on est très proche de la mer. Je suis arrivé il y a un petit peu plus de 7 ans, justement, au cœur de l'agglomération de Concarneau. La communauté d'agglomération. Donc, je disais 9 communes, 50 000 habitants et un service multimédia qui existe depuis 1998. Je suis arrivé au cœur de ce service-là et quand je suis arrivé, donc, le service multimédia avait commencé, lui, au cœur des bibliothèques avant. Donc, c'était au tout début de l'informatique. Ils avaient déjà mis en place un service multimédia pour accompagner les citoyens à l'utilisation, à l'usage de ce qu'on appelait l'informatique et le multimédia, qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Et quand je suis arrivé en 2014-2015, ils avaient créé justement un espace itinérant, l'e-bus, donc un bus qui sillonne justement ces 9 communes-là dans le but d'apporter des formations, de proposer des ateliers autour des usages numériques, donc informatique, multimédia, comment utiliser les réseaux et un peu aussi de loisirs. Donc, je suis arrivé en tant qu'animateur multimédia et j'ai vite senti, au fil des premiers mois, le manque, pas d'intérêt, mais d'interaction avec l'e-bus. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 2012, donc je suis arrivé deux ans et demi après. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait, alors je crois que la première année, c'était 2000 personnes qui avaient fréquenté l'e-bus en 2012. Et quand je suis arrivé, il y avait moins de 700 personnes. Donc, il y avait gros problème de fréquentation. Et en fait, l'idée quand je suis arrivé, c'était d'animer ce bus-là, mais aussi de chercher à comprendre pourquoi il y avait aussi moins de monde. Donc, entre mes périodes d'animation dans le bus, je suis allé visiter pas mal d'espaces publics numériques dans le Finistère, en Bretagne et partout en France. Et je suis allé aussi visiter des Fab Labs. Je ne connaissais pas du tout ce qu'était un Fab Lab au tout début. Donc, en fait, j'ai vite vu que en fait, dans la plupart des espaces publics numériques en France, il y avait à peu près le même constat. C'était une grosse baisse de fréquentation à cette époque-là. Et tout le monde se posait un peu la question du pourquoi. Et à force d'avoir visité les EPN, les espaces numérique, je me suis rendu compte qu'en fait, le numérique évoluait très très rapidement. En fait, on était loin de la demande quand même des citoyens, qu'ils voulaient être beaucoup plus impliqués aussi dans les projets, dans les ateliers proposés. Et qu'en fait, on répondait juste à c'était un petit peu de la consommation. Donc voilà, il y avait un besoin, on avait répondu à ce besoin-là, ils revenaient plus, on les revoyait plus du tout. Donc c'était assez compliqué. Une fois que tout le monde est passé dans le bus, il n'y avait pas vraiment de vie dans ce bus-là. Et quand j'ai commencé à visiter les Fab Labs, je me suis rendu compte qu'il y avait un fonctionnement qui était tout à fait différent que ce qu'on pouvait proposer dans le bus, qui est un service qui était d'ailleurs totalement gratuit. Et justement, quand c'est gratuit, c'est encore plus compliqué. C'est super, hein, les gens sont contents, mais ils se plaignent plus facilement aussi parce que ils manifestent un peu leur mécontentement. Oui, ça coûte cher, les impôts, ils ne proposaient pas de nouveaux ateliers, etc., etc. Donc c'était un petit peu compliqué quand je suis arrivé. Et ces Fab Labs, en fait, ont montré justement un tout autre fonctionnement, c'est-à-dire l'implication des adhérents pour les associations. Là, c'était pour la plupart des assos, et puis des projets qui sont plutôt autour du faire ensemble et plutôt que cette idée de consommer, d'arriver, de se poser un peu sur une chaise, faire l'atelier, quelque chose de très justement vertical, hein, André en parlait tout à l'heure, et en fait, très descendant et très peu participatif. Et donc, avant de lancer cette histoire de Fab Lab, on a commencé à proposer des ateliers qui étaient beaucoup plus justement participatifs et on a proposé des questionnaires, on a essayé d'impliquer les habitants un petit peu plus. Et puis, bah, c'est là qu'on a commencé à faire un Fab Lab itinérant avant que ça devienne Concar Lab. On a proposé des ateliers aux habitants autour de fabriquer son imprimante 3D, fabriquer une éolienne, mais tout ça en mode participatif et vraiment pas sous forme de formation ou d'atelier classique. Voilà un petit peu comment ça s'est passé au tout début. André, tu voulais peut-être...
Poursuis l'histoire. Donc, du coup, voilà.
Donc suite à ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable engouement qui s'est créé autour de ces ateliers, mais beaucoup plus que ça. On s'est rendu compte qu'en fait, au-delà des habitants, il y avait aussi pas mal d'assos qui étaient intéressés par ce format, par le lieu que pouvait se représenter l'Ibus. Alors, c'est un espace qui était petit. Donc, en fait, au début, c'était l'expérimentation. On a vraiment commencé par expérimenter, savoir si ça allait fonctionner ou pas. Donc, c'est très important. En tout cas, on s'est rendu compte que maintenant, dans tous les projets qu'on mène, l'expérimentation petite, elle est hyper importante, en fait, parce que si ça ne marche pas, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Là, l'expérimentation, elle nous a permis vraiment petite, dans un lieu qui était petit lui aussi, mais qui était super parce que c'était quand même le satellite un petit peu, parce qu'il naviguait aussi sur toutes les communes du territoire. Donc, ça permettait aussi d'aller un petit peu chercher les personnes dans les associations, etc. Et on s'est rendu compte que tous les futurs partenaires, les personnes qui étaient intéressées, les assos et les habitants, étaient intéressés pour avoir un lieu physique commun, vraiment où on pouvait se retrouver dans un seul et même lieu pour parler de plein de choses. On n'a rien inventé, je le dis souvent, les maisons pour tous existent depuis longtemps, les médiathèques, les bibliothèques, les lieux comme ça existent depuis des années. On n'a pas voulu inventer quelque chose d'autre, c'est un lieu, la même chose, pareil. À la différence qu'en fait, on peut y faire mais vraiment tout. Ça peut, j'en parlais un petit peu plus tout à l'heure, mais ça peut aller sur la thématique de la santé, du bricolage d'un vélo, de réparer un ordinateur, de toucher à l'électronique, de parler d'enjeux sociétaux, de parler juste de boire un café, et puis d'accompagner quelqu'un aussi qui a des problématiques d'argent, qui a envie de faire un CV. On y fait vraiment tout. Il y a un petit plus, c'est qu'il y a des machines... dans ce Fab Lab, en tout cas, des machines numériques. Donc ça, c'est, on y viendra aussi après. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que l'Ibus, l'expérimentation petite, avait besoin assez rapidement d'évoluer et de grandir rapidement parce que les gens ont tous ressenti ce besoin d'avoir un lieu parce qu'en fait, on se voyait, on était une dizaine dans le bus et en fait, on est passé à une vingtaine, on pouvait plus rentrer dans le bus. Et en fait, on s'est dit, wow, faut vraiment qu'on aille plus loin et qu'on ait un lieu. Et mine de rien, le lieu est super important. Peu importe la taille, peu importe l'endroit, on va dire qu'il faut un lieu pour se retrouver.
Ça, c'était... Juste là-dessus, ça veut dire que vous êtes passé d'une expérimentation nomade, en fait, hein, à une expérimentation, et là, au constat avec l'expérimentation, qu'en fait, avoir un lieu stable et fixe, physique, était une nécessité.
Alors, on va dire que oui, c'est une nécessité. C'est super parce qu'on a toujours l'Ibus qui est là. Donc, il tourne toujours. Lui, il est toujours autour des usages numériques. Et on a aussi récemment été labellisé France Service, Bus France Service. Donc, ça c'est une super chose. C'est qu'on accompagne aussi autour des démarches administratives en ligne et de l'accès au droit. Mais ces deux lieux, aujourd'hui, cohabitent totalement. Et en fait, ça nous permet aussi de faire le lien sur les autres... commune, parce que le Fab Lab, lui, il est fixe. Il est d'ailleurs, j'en parlerai aussi après, mais sur un quartier prioritaire politique de la ville. Donc, des fois, on a l'impression de toucher aussi que les habitants de la, pas que du quartier, mais de la ville. Il faut qu'on aille plus loin et du bus aide. Donc, ça, c'est les deux, c'est top.
Ok, et donc, du coup, vous avez commencé à faire quoi alors dans ce lieu?
Là, ça a été assez compliqué parce que là, l'idée, c'est vraiment de convaincre aussi. Donc, on avait les partenaires. Donc, il y avait, pour vous citer quelques partenaires, il y avait des associations qui travaillent dans l'environnement, les océans, des assos comme le centre socioculturel du quartier et de la ville qui étaient présents aussi. Pas mal d'habitants, plutôt des un peu des geeks qui étaient intéressés pour eux avoir vraiment l'idée de faire des choses autour du numérique. Voilà, ces personnes-là étaient totalement convaincues par l'idée du Fab Lab. Les agents aussi avec lesquels je travaille à la communauté d'Aglo aussi étaient, eux, convaincus. Maintenant, il fallait convaincre la direction et surtout les élus. Parce que un lieu, ça coûte de l'argent. Il faut aussi avoir les ressources financières, humaines, techniques. Voilà. Donc, ça a pris un peu de temps. Donc, en fait, on a continué. On voulait le lieu, on savait que c'était utile. mais on a dû continuer à aller un peu plus loin pour prouver aussi aux élus qu'en fait, dans un Fab Lab, même si petit et itinérant, on ne faisait pas que des Lego imprimés en 3D, quoi. Qu'il y avait vraiment une utilité de se retrouver. Et c'est pour ça qu'on a, on a proposé, au-delà des ateliers, on a proposé des rencontres au sein du bus. Donc, en fait, on a montré que des partenaires du territoire pouvaient aussi venir au sein du bus pour pouvoir discuter de plein d'autres choses. Donc, on a fait des événements, des ateliers. Ça a été ce qui a déclenché tout le reste. Et tout le reste, bah, c'est quoi ? C'est justement de faire venir aussi les élus à l'intérieur du bus, de montrer un peu le fonctionnement, de faire de plus en plus d'ateliers, d'en parler dans la presse, de communiquer, d'impliquer les partenaires et les gens qui venaient dans le bus dans toutes les étapes de la construction du futur Fab Lab. Ça, je le répète à chaque fois, dans tout projet aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, plus on va impliquer dès les racines, dès le début, les personnes, plus ils vont se sentir impliqués dans la suite et plus ils vont rester et vouloir aussi animer le lieu, aider administrativement, ils vont aider sur techniquement, ils vont faire plein de choses et ils vont être là hyper souvent. Et en fait, c'est ce qui se passe. On se rend compte aujourd'hui que quand on est vachement sollicité aujourd'hui au Fab Lab, justement, pour cette histoire de montage de tiers-lieux Fab Lab. Et pour nous, en tout cas, de notre expérience sur le territoire, sur le quartier, ça réside vraiment dans l'implication. Et on le voit même dans tous les autres projets qu'on accompagne aujourd'hui, parce qu'on est aussi des ressources qui accompagnent d'autres tiers-lieux. On se rend compte qu'en fait, le plus important, c'est vraiment d'impliquer dès le début et dans toutes les étapes. Même la partie la plus chiante, on va dire, c'est le mot, hein, il faut quand même impliquer les gens parce qu'ils vont en fait, il faut être transparent. Et ça, c'est l'idée, c'est parce que la personne qui va être qui a pas reçu le mail, qui a pas été appelée parce qu'il y a le projet qui a évolué, eh ben voilà, elle va se sentir un peu hors du circuit, même si c'est quelque chose qu'elle voulait pas faire, au moins elle est là et en toute transparence, elle sait comment ça se passe. Donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a été transparent avec tout le monde, on a impliqué des personnes, on a aussi impliqué les pouvoirs publics, on a impliqué certaines entreprises et associations, et là le projet a pu décoller.
D'accord. Et du coup, le projet, il a construit quoi ? Alors, du coup, vous avez fait quoi ?
On a trouvé, on a de la chance, c'est que bah, moi, avant d'être là aujourd'hui à mon poste, parce que je suis toujours agent de la communauté d'agglo, pardon, je suis responsable du service usage numérique, mais je suis aussi directeur du Fab Lab tiers-lieu. L'idée, c'était d'avoir un lieu, et la chance qu'on a sur ce projet-là, c'est que bah, en fait, la communauté d'agglomération a accompagné directement et assez rapidement la création de l'association. Donc, l'étape d'après, c'était justement, l'idée, ce n'était pas que ce soit un projet à l'intérieur de l'agglo et que ce soit l'agglo et les élus qui portent. Parce que, à mon avis, pour s'impliquer en étant citoyen ou association, je vois très difficilement, il y en a, hein, mais c'est assez compliqué que les habitants s'impliquent dans un projet qui est porté par une agglo. Donc, l'étape d'après, ça a été tout de suite la création de l'association. Voilà. Donc, la création de l'asso, donc c'était le 1er mars 2017. Pour info, on a la réflexion au niveau du Fab Lab, ça s'est fait en 2015 déjà. Donc, il a fallu quand même 2 ans hein, avant que la création de l'asso, ce projet sorte de terre. On avait planté des graines un peu partout avant. Et puis après, bah, il y a eu les semis, puis après, bah, il y a eu la création de l'asso. Ça, c'était la première étape. Et donc, dans la gouvernance, la communauté d'agglo ne fait pas partie de la gouvernance. C'est un conseil d'administration qui reste les personnes qui étaient d'ailleurs au tout début de la création du Fab Lab, donc qui sont des habitants et aussi des membres d'associations, personnes physiques. Hein. Voilà, création de l'association. L'étape d'après, c'était trouver un lieu. Donc là, ça a été assez compliqué aussi parce que d'abord, on a eu un lieu à disposition par l'agglo, donc juste en face à la pépinière d'entreprise, ce qui n'était pas hyper fun. Et on a eu de la chance avec la ville, après avoir discuté, a fait pas mal de rendez-vous dans ce lieu-là. On a finalement trouvé un lieu qui nous paraissait être le mieux placé par rapport à toutes les idées, les projets qu'on voulait mettre en place. C'était au sein du quartier prioritaire qui s'appelle Carandon, qui est qui fait partie des 1200 quartiers prioritaires de France, 1200 je crois, et qui est un peu sur les hauteurs de Concarneau. Et on s'est positionné là dans un lieu très très vieux, vétuste, mais c'était ça qui était assez magique, c'est que justement quand on parlait d'implication, là où on a vraiment vu qu'en fait ce lieu allait fonctionner, c'est que le lieu, on a dû refaire tout entièrement. On n'a pas eu de coup de main du tout, ni de la ville, ni de l'agglo. On a dit, on va tout faire nous-mêmes, l'électricité, les peintures, le nettoyage. On a vraiment tout fait. Et en fait, le projet, il a été construit ensemble. Et alors, on était loin d'être avec les habitants du quartier encore, mais avec des personnes qui faisaient partie un peu du cœur de personnes qui étaient là au début dans le bus. On a vraiment façonné ce lieu ensemble. Je continue.
Je ne peux plus t'arrêter là. Ce que je trouverais intéressant, parce que je vois le temps qui passe, c'est moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement l'implication des gens dans le lieu, le fait que le lieu, qu'ils l'ont aménagé, etc. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la grande diversité des publics par rapport à des projets élaborés ensemble, hein, l'histoire du drone, enfin, des gamins utilisant des outils technologiques relativement élaborés. Ce qui m'intéresserait peut-être pour nous, c'est voir le type de projet que vous avez pu conduire, en fait, hein, pour avoir une idée un peu concrète de la diversité à la fois des liens que vous avez avec l'environnement, la mer, enfin, la santé, etc. Le handicap, vous avez travaillé sur plein de champs, et puis qu'est-ce que vous avez réalisé aussi, hein. Et puis on verra après un peu les perspectives par rapport à la mobilisation.
En fait, je pense qu'on avait quand même il y avait plusieurs paris, donc il y avait Paris numéro 1, c'était la création de l'asso. Numéro 2, c'est trouver un lieu. Numéro 3, c'était de faire venir du monde de l'extérieur du quartier à l'intérieur du quartier. Et il y avait le pari numéro 4 qui, lui, était beaucoup plus compliqué. C'est là que, d'ailleurs, on a aussi travaillé avec André. C'était de faire vraiment de la mixité avec des personnes qui étaient au cœur du quartier. Nous, on le savait parce qu'on avait fait on avait fait un état des lieux un peu en termes d'usage numérique. Il n'y avait pas beaucoup d'associations à l'époque sur ce quartier-là. Donc, c'était vraiment faire la mixité avec les habitants du quartier et ceux qui étaient de l'extérieur. Paris, très loin d'être gagné parce que c'était assez compliqué. Les personnes étant éloignées du numérique et du monde associatif, ils n'ont pas trop compris pourquoi. Déjà, ils ne savaient pas ce que c'était un Fab Lab. Ils n'ont pas trop compris pourquoi une association se positionnait là avec des machines, des gens qui venaient de l'extérieur, qui regardaient comme un peu des étrangers, parce que faut savoir que ce quartier-là était ultra cloisonné aussi. Je disais pas très peu d'activités associatives et très peu dynamique aussi. Quand on est arrivé, ça a fait un peu bizarre. Et donc, on a, pour venir sur les projets, on a d'abord travaillé énormément avec des gens qui étaient à l'extérieur du quartier pendant quasi 2 ans quand même. Donc, on a fait beaucoup de projets. On a travaillé sur la santé, on a fabriqué des prothèses. On a électrifié des fauteuils roulants aussi à l'aide de batteries, d'ordinateurs portables. Donc, on a travaillé beaucoup avec beaucoup d'associations, beaucoup d'habitants de tout le territoire, même au-delà. On est allé jusqu'à Brest, Rennes, Nantes, Lorient, etc. Sur toute la Bretagne, on a travaillé pas mal avec des entreprises et des assos. Et on a travaillé aussi sur tout ce qui est thématique océan, fabrication de drones volants, flottants. On a travaillé sur les usages numériques aussi. On a accueilli pas mal de personnes, mais on n'arrivait vraiment pas à décoller avec les habitants du quartier. Et ça, en fait, c'était quand même le plus gros pari, et en fait, ça a été très compliqué. Et en fait, ça a été plus simple que ce qu'on pensait, c'est qu'en fait, on proposait beaucoup d'ateliers avec des assos. On faisait partie aussi beaucoup d'événements. Il y a des événements qui s'appellent la Journée des Possibles. Il y en a deux par an qui sont organisés par le Centre socioculturel de la ville, qui a une antenne sur le quartier. On y était, mais les personnes, quand ils venaient au Fab Lab, ils voulaient aussi consommer, c'est-à-dire qu'il voulait voir la découpeuse laser, l'imprimante 3D, il voulait repartir avec un objet, puis après on les revoyait plus jamais. Il s'est dit, mais comment on va faire vraiment pour pouvoir les impliquer, pour pouvoir qu'ils participent au projet enfin, c'est impossible, en fait. On se disait, on s'est un petit peu projeté, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et un Fab Lab, ça n'a peut-être pas sa place dans un quartier prioritaire, en tout cas le nôtre, peut-être pas. Et un jour, on a participé à des... Tu parlais de jardins partagés, tout ça, tout à l'heure, c'est marrant. On a participé à des cafés-jardins qui sont organisés par justement le Centre socioculturel qui accompagne le projet de jardins partagés sur le quartier. Et les cafés-jardins sont tous les jeudis, on y a participé, puis on discutait avec des habitants, et en fait, on s'est rendu compte, en fait, c'est simple, on aurait dû aller à ce café-jardin depuis longtemps, discuter juste avec des habitants autour d'un café et savoir quels étaient leurs besoins. Et en fait, là, leur besoin, il était simple. Leur serre était très fatiguée. Elle avait plus de 20 ans. Vous imaginez en Bretagne, avec le vent et la pluie, la tête qu'elle avait. Donc, en fait, ils ont dit, voilà, nous, on a une serre qui est fatiguée. On ne sait pas quoi faire. Peut-être que vous pouvez nous aider. Et bim, bah voilà. Donc en fait, on s'est dit, eh bah, écoutez, on va voir. On a fait des réunions avec eux, avec des bénévoles du Fab Lab. On a recruté un stagiaire sur 2 mois et on a fabriqué une serre en forme de dôme géodésique il y a quelques années. Et en fait, c'est ce qui nous a fait totalement décoller auprès des habitants. Et en fait, on a fabriqué la serre en partie au Fab Lab avec des outils et on a monté cette serre-là sur le quartier. Et en fait, on a tout de suite été identifié comme lieu. Plutôt du lieu de facilitation pour la réalisation de tout type de projet plutôt que Fab Lab. Aujourd'hui, les gens, le mot Fab Lab est resté, le mot Concar Lab, c'est le nom de l'asso, est resté, mais ils ne se disent pas que c'est un lieu où on va trouver des machines avec des plus laser. En fait, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y arrive un peu rapidement, mais c'est pour ça aujourd'hui quand même qu'on est devenu beaucoup plus un tiers-lieu qu'un Fab Lab, parce qu'en fait, ils ont identifié que, en fait, dans ce lieu-là, on peut, si on a une problématique avant, on peut venir dans celui-là et trouver des solutions. Et ce n'est pas grâce aux machines et aux lieux physiques, mais c'est grâce à tout l'écosystème du Fab Lab, c'est-à-dire à l'intelligence collective que peut créer aussi ce lieu-là. On a plein d'adhérents qui vont venir au même moment, à la même heure, ou alors on a une liste de diffusion. Il y a un problème, il y a quasi toujours une solution. Je crois qu'on n'a jamais réussi, je crois qu'on n'a jamais laissé de côté un problème sans réussir à le résoudre. Donc ça, là, aujourd'hui, on est identifié comme ça auprès des habitants du quartier. Et le public, aujourd'hui, ben, c'est alors, on va pas vous, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que il y a 100% des habitants du quartier, on est quand même très loin, mais en fait, on a de plus en plus d'enfants qui viennent réparer leur vélo, leur trottinette, des personnes qui viennent juste nous emprunter une perceuse, une visseuse, demander des conseils ou juste boire un café parce qu'en fait, ils ont besoin de discuter. Et là, on se dit, bah, ça y est, on a réussi quelque chose. Et pour les publics, voilà, donc il y a les habitants du quartier. On va dire qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, on était à 0,01%. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 25-30%. Peut-être qu'on ne sait pas toujours. Après, on ne stigmatise pas non plus. Il y a une personne qui arrive, on lui dit pas, est-ce que vous venez du quartier de Caron ou quoi? L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est quand même voilà, de pouvoir discuter avec la personne tranquillement et de savoir un peu son parcours et savoir comment elle veut s'impliquer ou elle veut qu'on l'accompagne sur un de ses projets. Et puis le reste, c'est des habitants de la ville, du territoire. Et puis, on a de plus en plus d'étudiants. Ce qui n'était pas du tout le cas aussi sur la ville de Concarneau, qui n'est pas du tout une ville étudiante. Donc on a pas mal de personnes qui viennent de Rennes parce qu'on a recruté énormément de jeunes en service civique sur plein de projets, notamment sur la thématique low-tech, la thématique océan, qui intéresse beaucoup. Et donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont même déménagé ici et qui sont pas repartis. Et ça, les étudiants, on en a quand même beaucoup. On a une quarantaine d'étudiants qui gravitent autour du Fab Lab. Et après, c'est beaucoup de professionnels, d'associations, d'artisans. Et en fait, on a aussi beaucoup, beaucoup d'élus qui utilisent le lieu pour sortir un peu des murs, des mairies, des collectivités, pour se retrouver, pour parler de plein de sujets avec justement les citoyens, les associations.
Alors, peut-être avant que je poursuive les questions, peut-être les réactions des collègues, parce qu'il nous dit, Olivier nous dit plein de choses sur la construction d'un lieu et sur la capacité à créer une espèce de connexion entre des gens qui n'auraient aucune raison de se rencontrer, en fait, hein, parce que c'est un peu ça l'idée, hein.
Et alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu décousu comme ça, mais en fait, il y a tellement de choses que.
Non, c'est très cousu, en fait, t'inquiète
Tu
pas.
crois?
Non, non. Bah, je trouvais intéressant que tu nous racontes l'histoire parce que on a beaucoup de Fab Labs qui sont construits d'en haut, c'est-à-dire dans une logique purement verticale. Là, le Fab Lab n'est que la conséquence d'un bus itinérant et d'un besoin d'un territoire. Donc, il n'est pas du tout. Je pense que c'est aussi pour ça que ça intéressait le ministère d'avoir des lieux et où on essaye de sortir des logiques de verticalité, d'avoir des beaux lieux, des beaux murs, des beaux. Et là, vous avez plutôt joué sur la question de l'investissement des personnes dans le lieu et de la contribution des personnes. C'est assez rare, hein. Peut-être réaction des collègues, si vous souhaitez interrompre, parce que nous, on peut discuter tous les deux pendant longtemps. Hein,
Il y a Marilène, je crois, qui voulait.
Marilène, je ne
Juste
te vois pas. Oui, Marilène.
une question sur la notion de tiers-lieu. Quelle serait, Olivier, votre définition de tiers-lieu par rapport à ce que vous menez aujourd'hui? Puisque je comprends qu'au niveau national, il y a voilà, un certain nombre de tiers-lieux. Et j'étais encore vendredi sur Angoulême. Moi, je suis de la région Nouvelle-Aquitaine, où il y a une définition qui est propre à la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai l'impression que finalement, ça se construit effectivement d'en bas. Et oui, voilà, quelle serait votre définition par rapport à ce qui est mené aujourd'hui?
En fait,
Ça m'intéresse beaucoup.
C'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement quand même. On ne sait pas toujours trop comment expliquer, mais moi, je me suis rendu compte qu'on est passé d'un… En fait, avant, la réalité, c'est que… C'est vrai que ça partait, alors ça part de l'Ibus, mais ça part vraiment d'un constat aussi autour des usages numériques. C'est pour ça qu'on a créé le Fab Lab d'ailleurs, parce que Fab Lab, laboratoire de fabrication numérique, on est d'abord parti d'un besoin quand même de la population. C'est vrai que ce n'est pas parti d'en haut, c'est parti d'en bas. Vraiment parti d'un besoin de la population, mais ça tournait vraiment autour des usages numériques. Un peu le côté geek, un peu le côté aussi, on va surfer sur la vague. Et puis, on voulait quand même un lieu, mais voilà, c'était plutôt Fab Lab. J'avais entendu parler de la notion des tiers-lieux depuis pas mal de temps. J'avais vu aussi le rapport de Patrick Elivate sur les tiers-lieux qui était ultra intéressant. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on ne se sentait pas encore vraiment, même presque pas du tout tiers-lieux. Aujourd'hui, je vais dire oui, parce que c'est pour ça que je vous disais, à un moment, on a décollé. Et là, on reconnaît la réelle utilité pour les habitants du quartier, mais aussi pour tout le monde. C'est que le Fab Lab, ça intéresse pas mal de personnes qui sont au courant un petit peu de ce qu'est un Fab Lab, qui ont envie de bricoler, qui ont envie de faire du numérique, d'utiliser des machines, et qui ont un peu la connaissance aussi. Un tiers-lieu, et c'est là où c'est la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut venir dans un lieu où en fait on n'y connaît rien, que ce soit au numérique, que ce soit dans les machines, que ce soit dans quoi que ce soit. On ne veut même pas rentrer forcément dans un nouveau projet ou se greffer à un nouveau projet. On n'a pas de projet en tête, on vient dans le lieu pour rencontrer du monde, échanger. En fait, c'est juste ça. C'est rencontrer du monde, échanger. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est un autre lieu. Pour moi, un tiers-lieu, c'est vraiment autre lieu, un troisième lieu, si on peut le dire aussi comme ça. Et c'est un lieu où, en fait, on peut y faire un peu tout ce qu'on veut. Et ça réunit aussi bien, je le disais tout à l'heure, un centre socioculturel, une médiathèque, on met à disposition des livres. Et en fait, à la différence des lieux d'avant, c'est qu'on travaille réellement au quotidien avec les partenaires. Pour moi, un tiers-lieu, c'est de travailler avec des partenaires tout le temps, les impliquer dans tous les projets. Les médiathèques, elles nous mettent des livres à disposition pour qu'on puisse les mettre aussi à disposition aux habitants. Donc, on n'est pas obligé forcément de passer par la médiathèque, qui peut des fois être un endroit où on n'a pas envie d'aller parce qu'on a peur, parce que voilà, c'est des livres. Est-ce qu'on a une super capacité à lire? Pas forcément. Donc, on va dans une médiathèque, ça peut faire peur. On travaille avec des étudiants, voilà, on travaille aussi avec des jeunes qui sont sortis du circuit scolaire, du système scolaire depuis des années, donc ils n'ont pas envie non plus de rentrer dans un Fab Lab qui est dans une école, etc., etc. Je pense que la définition, elle n'est pas simple à trouver comme ça, mais c'est un endroit où en fait on travaille énormément avec des partenaires et on peut y trouver un peu tout. Alors, je ne vais pas dire qu'on donne la réponse à toutes les questions, on n'a pas les solutions à tout, hein, c'est loin d'être parfait, hein, sinon ce serait trop beau. Mais vraiment, la définition, c'est vraiment un lieu où on travaille ensemble. Et c'est surtout, on travaille ensemble, mais on fait ensemble. Et ça, faire, je pense qu'on l'a oublié pendant pas mal d'années, de faire ensemble. On faisait un peu chacun de son côté. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au Fab Lab aussi. Et ça a été dur parce que d'arriver sur un quartier où, même si ce n'est pas hyper dynamique au niveau associatif, il y a des choses qui existaient. Ce n'est pas nous qui avons révolutionné et on n'a pas dynamisé le quartier nous-mêmes. Mais en fait, il faut savoir travailler aussi avec les autres. Et ça, c'est ultra compliqué au début. Et en fait, le fait de faire ensemble, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble. Parce que des fois, on va monter un projet dans son coin, on va dire, bah, tiens, est-ce que ça t'intéresse? Bah, mais la personne, elle n'était pas là au début du projet, même pas au début de la réflexion. Et bah, en fait, du coup, bah, on se greffe, mais bon, voilà, c'est pas. Alors que là, le fait de faire ensemble, de mettre tous la main à la pâte, de prendre le marteau, le stylo, tout ça, pour moi, ça, c'est un tiers-lieu. C'est pas qu'un Fab Lab.
L'association, elle a été créée aussi avec la participation des habitants?
Ouais, tout à fait. Alors, pas des habitants du quartier, malheureusement. Je dis ça, mais il y avait. Je suis habitant du quartier de Caromont, d'ailleurs, hein, pour info. J'habite dans des maisons un peu plus bas. Ça fait partie du quartier de Caromont. Et il y avait un habitant du Caromont qui représentait aussi. Mais on va dire que c'est surtout les habitants du territoire et membres des associations qui, eux aussi, avaient alors pas les problématiques, mais l'envie d'avoir un lieu, quoi.
Juste peut-être pour compléter par rapport à la question de Marilène, ce qui est intéressant, c'est le passage d'un lieu qui était essentiellement un Fab Lab à un tiers-lieu, qui est un lieu tiers, c'est-à-dire qui est d'abord un lieu de rencontre dans lequel il n'y a aucune obligation de faire et d'avoir des projets. Il me semble que ça, c'est vraiment ce qui fait la connexion avec tous les habitants, c'est qu'il n'y a pas de contraintes a priori et que c'est un lieu dans lequel on peut avoir envie d'aller pour ne rien faire. Ce qui donne l'occasion aux gens de faire si la circonstance s'y prête, quoi. Et il me semble qu'il y a une dimension occasionnelle et apprenante qui est très intéressante. Le passage d'un Fab Lab qui peut être très formaté par des geeks ou par des gens, etc., à un lieu qui est d'abord un espace de rencontre, chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont pas à la médiathèque et ils vont aller au Fab Lab, par exemple, très intéressante. Il y a une désinstitutionnalisation de l'espace par le tiers-lieu, parce qu'il est co-construit avec les gens.
C'est exactement ça, c'est désinstitutionnalisé, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on a beaucoup, c'était assez compliqué au début quand c'était un Fab Lab, justement, on proposait des ateliers, tout venait un peu du Fab Lab, tout venait un peu de l'équipe du Fab Lab, c'était assez bizarre d'ailleurs, mais il fallait au début qu'on lance aussi la machine, il fallait qu'on propose des ateliers pour montrer aussi toute l'étendue et les possibilités qu'on pouvait faire dans un lieu en fait. Et au début, c'était compliqué parce qu'on était entre eux, on fait ensemble, c'est un peu aussi de la consommation, on ne savait pas trop où on était, en fait, on travaillait, on se fatiguait parce que c'était pro. Il fallait tout le temps qu'on relance la dynamique. Aujourd'hui, c'est impressionnant, en fait, la période Covid a fait beaucoup aussi parce que les gens se sont rendus compte que le lieu manquait énormément. Et du coup, on a cette période-là aussi, c'est important d'en parler, je pense, aussi dans l'histoire des tiers-lieux, ça a fait énormément. C'est que les gens manquaient d'un espace physique, en fait, pour se retrouver. Et du coup, quand on est revenu, on n'était plus ouvert le soir. En fait, on n'était plus ouvert au public, tout simplement. Mais on avait quand même du passage. Et on n'était plus ouvert le soir parce que moi, j'y étais tout seul pendant un bout de temps. Mais on avait, du coup, c'était un autre type de public. Donc, un public plus proche. Et le public plus proche, c'était les habitants du quartier.
Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Donc, comme le temps passe, s'il y a des réactions, des questions, des témoignages, profitons-en. Hein. Marilène, tu peux continuer. Je suis sûr que ça t'intéresse pour la forge des compétences. Hein.
Après, c'est la question de la mobilisation du public. Hein.
Oui.
Est-ce qu'effectivement, le Café des Jardins, par exemple, c'est quelque chose que vous continuez à aller, parce que on est aujourd'hui, moi, sur une construction d'un projet qui s'appelle la forge des compétences, le faire ensemble, on forge ensemble, on est aux prémices, donc bravo, hein. Dieu sait que c'est pas facile, là. On est aux prémices notamment de la mobilisation des publics, et on se rend, il y a peut-être une question aussi sur la question du support prétexte, on n'a pas de Fab Lab, on n'a rien, on n'a que des intuitions et des intentions dans notre projet. Et du coup, on va sur la mobilisation des publics aujourd'hui au travers d'excursions professionnelles, au travers de porte-à-porte, avec une méthodologie qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que ce qui est important, ce qui a été dit là, Olivier, c'est moi, j'ai noté le Café des Jardins et de s'introniser finalement sur le quartier. Ça a été un point hyper important et essentiel dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Et du coup, ça a donné une participation des habitants. Nous, c'est notre souhait vraiment d'intégrer les jardins partagés, les cafés passants, c'est ce qu'ils appellent les cafés passants. Est-ce qu'effectivement, vous continuez à aller, Olivier, sur ces cafés de jardin, sur ces journées des possibles, ou est-ce que c'est finalement des one-shot?
Non, on continue. Là, on a organisé nous, et en fait, nous, mais c'est un collectif, hein, avec tous les partenaires, et on a organisé les 48 heures d'agriculture urbaine ce week-end. C'était au Fab Lab et au jardin partagé, donc c'était super. On va très régulièrement boire des cafés sur les cafés jardins. On essaie de participer le plus possible. Moi, je le fais moins maintenant personnellement, parce que il y a plein d'autres choses, j'ai plein d'autres missions, mais par contre, on a de la chance d'avoir été, justement, on en parlera tout à l'heure, été accompagné par la Fondation France, par l'État sur les fabriques de territoire, les fabriques de territoire, donc on a pu recruter. Mais juste pour revenir sur le lieu, le lieu est important, mais c'est vrai que de sortir de son propre lieu, c'est hyper important. parce que en fait, c'est important d'avoir un lieu où se retrouver, mais ce n'est pas forcément son lieu. Nous, ça a été important parce que on voulait accompagner aussi le public sur les notions d'utilisation des machines. En fait, il y a toute une histoire de compétences au-delà du numérique et au-delà de l'informatique, des machines. Il y a une histoire de compétences, de savoir-faire. Il y a surtout, et ça on en parle beaucoup moins, c'est une question de savoir-être aussi. On s'est rendu compte que, en fait, sans le savoir, on formait aussi, alors beaucoup sur la jeunesse au début et après aussi maintenant sur les adultes, les habitants du quartier qui avaient des difficultés. Et là, on s'en rend compte de plus en plus, c'est assez hallucinant d'ailleurs, qu'en fait, au-delà des compétences, vraiment savoir percer, visser, utiliser une imprimante 3D, eh ben, les jeunes qui venaient par exemple avec la mission locale sur une période d'une semaine à six semaines, en fait, au début, ils venaient en retard, ils parlaient mal, ils ne respectaient pas. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et en fait, petit à petit, à force d'apprendre aussi des nouvelles compétences techniques, ils ont aussi appris d'autres compétences qui sont, elles, plutôt invisibles. Mmh. Et celles-ci, c'est les plus intéressantes et c'est les plus. Comment dire ? C'est vraiment des expériences humaines en fait, que ça apporte et en fait, elles se forment elles-mêmes. Et c'est là, ça aussi, ça fait partie un peu de la différence entre le Fab Lab et le tiers-lieu. C'est que pour moi, le Fab Lab, c'était plutôt quelque chose de technique et le tiers-lieu, c'est quelque chose de plutôt humain.
Merci beaucoup.
Donc, je vois qu'il y avait, il y avait Lydie et Philippe qui avaient peut-être des questions pour… Lydie, peut-être vous avez une question ?
Oui. Du coup, merci beaucoup. On essaye. Donc, moi, je travaille plutôt sur tout ce qui est coordination de l'accompagnement des publics plutôt RSA. Et on avait envie de travailler. On a des Fab Labs assez chouettes. On a l'EduLab aussi dans l'Hôtel Pasteur à Rennes. Et j'ai du mal à voir. Alors, je vois bien l'intérêt, hein, carrément. Mais j'ai du mal à voir comment on peut travailler, vous. Alors, je vois que vous bossez, je vois reçu sur votre site que vous bossez avec la mission locale. Comment vous bossez avec eux ? Comment ça se passe ?
Comment on bosse avec la mission locale ?
Ouais.
Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi de la chance maintenant, alors c'est pas au début, mais de travailler avec une personne qui s'appelle Hélène Guizou, qui travaille à la mission locale et qui fait partie aujourd'hui des membres du conseil d'administration. Et en fait, on travaille avec eux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les garanties jeunes. C'est un dispositif qui accompagne les jeunes en insertion professionnelle sur une immersion un peu à la mission locale et aussi dans le monde du travail, soit dans des entreprises, dans des assos. Et en fait, aujourd'hui, toutes les garanties jeunes qui durent un certain temps, six semaines, tout ça, en fait, ils font un passage par le Fab Lab et ce passage-là, il dure une semaine ou deux. En fait, du coup, ils font partie de la vie quotidienne du Fab Lab, du tiers-lieu. Donc, ils sont là. Des fois, il y a plein de choses à faire, des fois un peu moins, mais ils rencontrent du monde, ils rencontrent des professionnels, des associations, des habitants. Ils participent à l'organisation d'un petit événement, d'un tout petit projet ou d'un gros. Et après, on essaye de les mettre sur des projets un peu spécifiques. Ils viennent, l'autre fois, c'était fabrication de mobilier urbain, découverte des métiers du drone. Après, des fois, on essaie de. Il y a des fois où on sait à l'avance quand va être la garantie jeune, donc on prépare un truc. On avait fait les métiers du drone, donc il y avait un photographe droniste qui était là, donc voilà. Après, ils étaient allés chez les pompiers, puis après, ils avaient vu encore un autre métier du drone. Donc, ils découvrent les métiers du numérique et de ce qui gravite autour des Fab Labs, des tiers-lieux. Et des fois, c'est un peu à l'arrache, ils viennent, et ça, c'est le truc le plus drôle, c'est qu'en fait, c'est là où il se passe le plus de trucs. Ils viennent, ils font partie de la vie du lieu, et en fait, ils participent au projet du quotidien, ils découvrent les métiers d'un facilitateur numérique de quartier, d'un médiateur, d'un directeur, d'une personne qui est en service civique, d'un stagiaire. Et souvent, ils finissent par faire un stage au Fab Lab, ou ils finissent adhérents et puis ils proposent aussi des projets. Donc en fait, ça se fait assez naturellement maintenant, le travail avec la mission locale, c'est devenu un lieu où le passage un peu obligatoire des jeunes de la mission locale.
Ouais, quand j'étais venu, il y avait des jeunes de la garantie jeune qui avaient continué après la garantie jeune et qui étaient adhérents, hein, c'est ça que vous m'avez dit.
Tout à fait. Et d'ailleurs… La garantie jeune, c'est maintenant, on ne lâchera jamais ce dispositif-là, on est à fond avec eux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, la plus grosse garantie jeune qu'on ait eue, il y avait 16 jeunes. Et on faisait en même temps, on a fait une formation aux animateurs de la ville, qui étaient une bonne douzaine. Donc ça avait créé tout un truc, c'était super. En fait, c'était des jeunes vraiment décrocheurs, mais vraiment qui bossaient plus longtemps, ou qui n'avaient jamais bossé, qui ne se levaient pas le matin, qui avaient des problèmes d'addiction, que ce soit jeux vidéo, drogue, alcool, c'était vraiment compliqué, quoi. Et en fait, cette période-là de quelques jours, en fait, ils sont restés pas mal de temps, plusieurs semaines, je crois, mais il y avait ce passage d'une semaine là, de formation des animateurs. Et en fait, ils ont tous réalisé des projets ensemble, ils avaient fabriqué justement un mobilier urbain et tout. Et à la suite, donc hyper motivés, et à la suite de ça, on a su qu'il y avait parmi ces 16 jeunes, entre 5 et 7 jeunes qui avaient retrouvé un emploi, d'autres qui avaient repris des études, d'autres qui avaient trouvé une formation, et d'autres qui venaient en tant qu'adhérents. On en a même pris deux en service civique.
C'est ça, vous avez pris en service civique, hein, il me semble.
Et l'un d'entre eux, qui était en garantie jeune de toutes les puces, il est médiateur numérique aujourd'hui au Fab Lab, il s'appelle Tristan, et il a eu une évolution extraordinaire, et c'est le gars qu'il faut aller voir au Fab Lab. Donc il y a des belles histoires, en fait, et je pense que travailler avec des missions locales ou d'autres associations d'insertion sociale et professionnelle, je pense que c'est ultra intéressant.
Par rapport à ce que la question de Lydie, je pense que c'est aussi historiquement, la mission locale a été impliquée dans le CA assez vite. Hein.
Alors, pas au début, pas au tout début, c'est après, parce qu'en fait, on ne savait pas trop. Enfin, on savait qu'on voulait être au cœur du quartier, mais c'était flou tout ça. On était loin d'imaginer déjà aujourd'hui ce qu'est le Fab Lab. Là, je pense qu'on n'y rêvait même pas. On ne savait pas trop ce que ça allait faire. Au début, c'était un endroit où on voulait se retrouver, faire des trucs ensemble, ça c'était sûr. Après, on voulait travailler avec les habitants, c'est venu un peu après, hein, vraiment, cette histoire d'inclusion, tout ça, c'était pas tout de suite, d'ailleurs, c'est venu plutôt quand on a commencé à travailler vraiment sur l'accompagnement de la Fondation de France, où André nous a accompagnés sur cette notion-là d'inclusion, en fait, des publics qu'ils appellent des publics fragiles. Et en fait, il y a toute cette question d'inclusion, numérique, mais aussi inclusion des métiers, inclusion sociale, professionnelle, qui est venue un petit peu après. Et c'est là où on a commencé aussi à travailler beaucoup plus avec la mission locale. Mais c'est pas venu non plus d'un coup, même si on avait en tête, mais on n'avait pas encore vraiment ni le langage, ni la technique, ni voilà, on avait l'envie de faire quelque chose, mais c'était pas vraiment défini. Et en fait, le projet, il s'est défini encore, hein, au fil des années. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que voilà, on était sûr de rien. Mais je pense que c'est aussi important de trouver, je parlais des partenaires, mais c'est aussi super important de trouver les bonnes personnes avec qui travailler et de jamais hésiter à poser des questions. On a eu la chance avec la Fondation de France, ça fait partie de l'histoire, de dire, on ne reste pas pour flatter devant tout le monde, mais je vais vous parler. On a eu la chance d'être accompagné par la Fondation de France, on a eu une subvention qui nous a fait vraiment décoller, qui était 40 000 euros quand même, pour une petite asso, c'était super. Et derrière, ils nous ont proposé, comme on n'avait pas encore vraiment créé l'association, on n'avait pas encore tout créé, c'était vraiment aux prémices. Et ils nous ont dit, voilà, comme vous êtes tout jeune et que vous ne savez pas trop où vous allez, mais votre projet est excellent, on va vous rajouter 5 000 euros de plus et vous allez trouver quelqu'un qui va vous accompagner, quoi. Et cette personne, c'était André Chauvet, qui nous a accompagnés sur une longue période, sur la définition un peu du projet. Et ça aussi, c'est super important. C'est, là, aujourd'hui, c'est se faire accompagner soit par une personne, soit par un autre tiers-lieu, soit par un autre. Voilà. C'est hyper important on revient en fait au truc de travailler ensemble, quoi. C'est hyper important de se nourrir de l'expérience des autres personnes, des autres associations, des autres tiers-lieux. Et quelqu'un qui va un petit peu, comme aujourd'hui, qui ne va pas forcément savoir quel est votre projet à vous, parce qu'il va être vraiment à l'extérieur et qui va nous dire, nous, on a fait comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher sur ton territoire, sur ta ville, sur ton quartier, parce que chaque territoire aussi a son fonctionnement, a son histoire. Donc, c'est chacun un peu son fonctionnement.
Merci, Olivier. Alors, il est juste 16h54. Hein, je regarde ton...
On peut dépasser un petit peu aussi, ouais. 5-10 minutes. Mais après, ouais, je vais en route.
Ouais, parce qu'il
j'ai rien préparé pour l'Assemblée Générale ce soir.
Mais vous avez compris qu'Olivier, elle n'a pas besoin de préparer. D'autres observations, questions, allez-y. Hein. Je n'ai pas. Alors, je ne sais pas si je ne vois pas forcément.
Je vois Philippe qui a des activités.
Philippe, tu veux dire que tu. Philippe
Je ne croyais pas avoir mis que. Levé mon petit bras, mais je peux dire quelque chose quand même, moi aussi.
Ah, je vais jouer les micros qui se désactivent pour ça. Je
mais c'est pas grave.
Philippe, non, mais, tu lui donnes la parole, il la prend en fait.
Hein. Oui, voilà, c'est ça. Comme à la radio, je comble le trou. Non, mais plus sérieusement, le. Mais merci parce que ça me permet de découvrir les différences entre Fab Lab et tiers-lieu. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris, donc avec des exemples simples, c'est toujours mieux, etc. Donc merci pour ça parce que voilà. C'est... Et puis moi, ça me des ces exemples très concrets, comment dire, me permettent de mieux comprendre ce qui se trame un peu actuellement parce que. Dans des travaux qu'on peut faire ou des recherches ou enfin ou qui m'intéressent ou que je croise, ce que je veux dire, c'est comme j'ai déjà pu le dire par ailleurs, on voit que la crise est un peu un accélérateur et un révélateur des signaux faibles, comme on dit tout le temps. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'on est en train de redécouvrir du coup l'importance des lieux, quoi. L'importance des lieux où on apprend, etc. Voilà, on a eu la période où l'écran fait écran, hein, comme on dit, quoi. Mmh. Et là, peut-être qu'actuellement, on redécouvre l'importance des lieux. Et ça me faisait me rappeler d'un bouquin de Maffesoli qui, en 2019, donc c'était avant la crise, parlait de la tribu, quoi, des savoir-faire tribaux. Et je trouve qu'il y a quelque chose de la tribu qui est intéressant dans ce que tu racontes. Et ça, voilà, la tribu est en train de se réinventer avec ces lieux-là, quoi. Et ça me paraît vraiment intéressant, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Puis après, il y a d'autres travaux plus conséquents que reprennent actuellement. On en a déjà parlé avec André, hein, quelqu'un qu'on a fait intervenir par ailleurs, donc Denis Christol, qui est à fond sur les questions d'apprenance et qui parle de mésologie aujourd'hui, de l'apprenance, quoi. C'est-à-dire, c'est les lieux où on apprend, quoi, pour aller vite. Hein. L'interface entre le lieu d'apprentissage et l'apprenant, quoi. Voilà. Mais ça date de Berck, enfin, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, bon, mais moi, ça me fait faire référence à ça et ça me parle parce que ça illustre de façon très opérationnelle ces concepts-là qui reviennent à la mode et j'en suis bien content. Quoi. Faire du lien, faire du lieu, faire tribu, faire voilà, etc. Quoi. C'est-à-dire que l'individu, c'est Berck qui dit ça dans un concept qui est très complexe que je ne développerai pas, il l'appelle la trajectivité. Il dit que. En fait, l'individu, il est auteur de son milieu, puis il est façonné par lui, quoi. Enfin, voilà, etc., etc. Donc, c'est tout ça, ça me fait penser à tout ça. Donc, je trouve ça de façon très pragmatique, très opérationnelle pour les gens. Ça me fait penser à tout ça. Donc, voilà. Fallait pas me donner la parole, mais.
C'est super intéressant. J'adore l'expression faire tribu. Je la reprendrai probablement. Je
connaissais pas ça, du tout. Tu peux la reprendre à la GIS.
Ouais, il va falloir que je la place quelque part.
Ouais, tu peux la placer, je suis content.
Ouais, les savoir-faire tribaux, c'est Maffesoli, c'est pas de moi, j'en suis désolé.
J'ai noté, mais je veux bien, si jamais tu peux mettre en lien dans la discussion, n'hésite pas, mais c'est très intéressant.
Absolument. Ouais, je ne suis pas sûr par les références exactes, mais oui, je suis bien sûr.
Mais c'est vrai que là, pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, au tout début, là, sur la définition entre tiers-lieu et Fab Lab, c'est jamais très très simple à expliquer et je pense que c'est aussi, ça dépend vraiment de c'est une définition qui là, aujourd'hui qui m'est propre et qui est propre à l'expérience de ce Fab Lab, de ce tiers-lieu-là. Mais c'est pas forcément, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition exacte, à part justement, comme tu l'as dit, faire du lien, un lieu, faire tribu. C'est, pour moi, c'est ça, en fait. C'est, je pense, là, ça me fait penser à là, une asso qui vient de se créer, qui va s'installer, là, qui s'appelle L'Outil en Main. Il y en a partout en France, hein, des assos comme ça, qui s'appellent L'Outil en Main. C'est justement, tu parlais des apprenants, de l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Ils existent depuis des années, mais eux, en fait, voilà, ils apprennent le bricolage, ils apprennent aux enfants, ou pas que, mais ils apprennent le bricolage. Et ce qui est génial, c'est que du coup, nous, on va faire du lien avec eux. Et la différence entre un lieu comme ça, L'Outil en Main, pour moi, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est pas un tiers-lieu, parce que ce serait aussi mettre dans des cases, etc. Mais c'est un lieu qui s'appelle L'Outil en Main, c'est un endroit où on apprend du bricolage. Et on apprend aussi énormément de savoir-faire et savoir-être aussi, hein, c'est ça qui est génial. Mais la différence, pour voilà, un petit peu affiner l'explication pour moi, ma définition du tiers-lieu, c'est vraiment un endroit où bah, le tiers-main va pouvoir aussi venir utiliser les lieux pour apprendre aussi et faire un gros projet, participer à un projet qui est plus gros, etc. Pour moi, ça c'est la définition un peu d'un tiers-lieu. C'est un endroit où tout va se croiser. Ce
n'est pas forcément une connotation numérique.
Oui,
c'est pas du tout.
Absolument.
Bah ouais, c'est ça.
On pourrait aussi définir, je suis toujours sur ma définition, comme un partage de compétences. Il y a des besoins sur un territoire, il y a un partage de compétences, je fais venir des compétences et je suis dans la notion d'entraide. Moi, mon projet Forge des compétences a un fort accent sur l'entraide et pas du tout l'accent sur le numérique aujourd'hui.
Ah, mais tout à fait.
Donc, ce n'est pas forcément… J'entends beaucoup tiers-lieu numérique, mais finalement… ce n'est pas forcément ça la clé d'entrée au départ.
Non, c'est, en plus, c'est marrant, mais le numérique, il a très peu de place, même au Fab Lab aujourd'hui. Alors,
aujourd'hui,
je ne vais pas vous cacher, il y a des entreprises qui utilisent des machines au quotidien, et d'ailleurs, c'est génial. Et là, la période Covid a aussi montré ça, c'est que justement, tous les artisans qui avaient arrêté de travailler, qui avaient fermé leur lieu, quoi, qui n'avaient plus d'entreprises, qui avaient bouclé, ils ont utilisé pour se relancer, ils ont utilisé le lieu. On met à disposition gratuitement ou sous forme d'adhésion très très faible à un artisan pour utiliser des outils, pour avoir un lieu, pour avoir de la place, bricoler. Et ça a fait redécoller. Mais en fait, on se rend compte que aujourd'hui, le numérique, il a très peu de place en fait au Fab Lab. Là, c'était les 48 heures de l'agriculture urbaine. Il n'y a pas du tout de numérique dans l'histoire, quoi. Donc voilà, et on peut aussi travailler sur quelque chose d'ultra numérique. Là, je vais organiser un forum sur l'intelligence artificielle en octobre. Là, pour le coup, c'est ultra numérique, mais en fait, un tiers-lieu, on est loin d'être que sur ça. Ça peut être justement sur l'environnement, sur les océans, c'est tout en fait.
En fait, vous êtes en lien avec une association qui est vraiment sur la question des low-tech, hein, je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, le low-tech lab.
Low-tech lab, là, voilà, qui est
d'ailleurs
très inspirant en fait. Hein.
Bah, le low-tech lab, c'est international, ils sont très très connus. Ils ont fabriqué une tiny house, une petite maison itinérante qu'ils ont placée aussi au Fab Lab. Ce qui est génial, c'est que ça fait aussi ramener plein de monde et ça a fait découvrir un peu l'univers des low-tech et aussi des tiny house un petit peu au Fab Lab. Et puis on la voit quand on arrive sur le quartier, on la voit de loin, il y a un panneau solaire qui est posé dessus. Donc, en fait, ça attire aussi la curiosité. Puis, les habitants du quartier qui sont parfois éloignés de certaines, de tout ce qui est un petit peu low-tech, pas que du quartier d'ailleurs, mais là, pour le coup, comme on la voit du quartier, c'est eux qui viennent en premier pas. Donc, non, mais on est loin d'être sur que le numérique.
Marilène, ça me paraît extrêmement important. Il n'y a pas le lieu tiers et pas forcément un lieu numérique. Les échanges de savoir, l'éducation populaire, c'est vieux comme le monde. Hein, le numérique n'existait pas. Donc, le numérique peut potentialiser, accélérer des choses, permettre des usages qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le numérique qui fabrique ça. C'est quand même le lieu. Et le lieu, qu'est-ce qu'il a d'apprenant ? C'est un lieu parce qu'il n'est pas institutionnel, parce que c'est un lieu de rencontre, parce que c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où il n'y a pas un programme, etc. Il a toutes les conditions réunies aujourd'hui pour faire que les gens ils peuvent y apprendre. Et du coup, ça nous oblige à repenser des vieux modèles, des modes d'apprentissage tout simplement liés au lieu. Je ne veux pas te couper ton énergie, hein, Olivier, mais on avait convenu qu'il fallait que tu puisses aller préparer ton AG, en fait. Donc,
n'hésitez pas si vous avez d'autres questions quand même avant que je parte. Si vous avez des questions.
Dis-nous un peu comment c'est quoi tes projets du moment avant de nous quitter là.
À part l'organisation de l'AG, non, les projets du moment. C'est déjà faire un peu faire un peu face un peu à toute cette crise et puis en fait on a eu des moments où on s'est dit ça va être la réouverture va être galère, on va avoir personne. C'est carrément le contraire en fait. On disait tout à l'heure, on a l'importance des lieux, l'importance de se retrouver, de recréer du lien, mais ce lien il se fait pas de la même façon et c'est assez marrant à observer. Donc là l'idée c'est cet été, c'est de proposer quelques moments les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est un super truc, mais là, on va se poser un petit peu, imaginer un petit peu la suite. Et nous, il y a un gros projet, de gros projets. On va déménager. Alors, c'est top. Et en même temps, on est dans un quartier, mais on est quand même proche d'un bois. Donc, on est en pleine nature, reculé. On peut faire du bruit, on peut taper avec des marteaux, faire des événements sans que personne nous entende. Donc, c'est assez génial. Mais on va se déplacer dans un lieu beaucoup plus central, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on est au sein de l'école, d'une école primaire, dans l'ensemble de l'école primaire. On n'est pas dans les locaux, mais en fait, c'est une toute petite structure en préfabriqué. C'était les anciens logements de fonction du directeur, donc on est un peu à l'écart. Ce qui, au début, était compliqué, parce que les personnes qui n'aiment pas trop rentrer dans les écoles, ça faisait un petit peu une barrière en plus, le numérique, le mot Fab Lab, etc. Bon, maintenant, ça va, mais ça en a fait quelques-unes, des barrières. Et on va, en fait, se déplacer au cœur du quartier, dans la tour qui est au centre, et au centre, ça s'appelle la place du marché. Il n'y a pas de marché, mais c'est la place centrale du quartier, et au sein d'une maison France Service, justement. Et donc, là, le lien, c'est aller un peu plus loin dans le lien avec les partenaires plutôt institutionnels, c'est-à-dire il y aura la CAF, une mission locale, Pôle emploi, des associations d'insertion aussi, voilà. Donc en fait, tout ça, on va aussi travailler à être un lieu, un tiers-lieu, une maison France Service, mais un peu une maison des associations, mais voilà, où on peut encore y trouver encore autre chose, donc le marché administratif en ligne, accès au droit. En fait, ça fait sens parce que on travaille toujours avec Libus, qui lui a été labellisé aussi France Service. On aura un espace itinérant, un espace fixe avec le Fab Lab. Et tout ça, en fait, c'est dans l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble et justement de faire de ce lieu plutôt de quelque chose d'un lieu, parce que les maisons France Service, c'est quand même souvent quelque chose de très administratif aussi. Hein. On y va pour faire ses papiers, sa carte d'identité. On y va pour aller voir la CAF, etc. Mais nous, on veut essayer aussi, encore une fois, de faire un tiers-lieu et essayer de créer vraiment du lien. Alors, j'ai fait ce signe-là parce que, c'est pas que c'est descendant, mais en fait, on aura des étages où il y aura plutôt des bureaux, plutôt l'espace de vie, le Fab Lab. Et en fait, tout va communiquer parce qu'il y a une extension qui va être créée. En fait, tout va être assez ouvert, avec des salles de réunions partagées, etc., pour justement transformer ce lieu qui est plutôt administratif. On a un lieu assez accueillant. Donc ça, c'est le gros projet. Et l'autre projet, c'est de trouver un équilibre dans notre modèle économique.
Économique, oui. J'avais posé la question du modèle économique, justement.
Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais là, l'idée, c'est de... Il y a plusieurs propositions qu'on est en train de réfléchir. On a eu quelqu'un en service civique qui a travaillé uniquement sur ça pendant 6 mois pour nous accompagner sur ces questions-là. Donc, il y a l'idée de travailler avec les entreprises pour trouver un équilibre, parce qu'on ne peut pas non plus continuer non plus à ne vivre que des subventions. Même si on a eu une super subvention, en fait, créer de l'emploi, c'est bien. Ça coûte très, très, très cher. Les charges sociales en France sont monstres, et en fait, on paye énormément, même pour des associations. Donc, il faut pouvoir aussi, c'est bien de créer de l'emploi, mais il faut aussi maintenir ces emplois-là, en créer de nouveaux, mais aussi, voilà, il faut aussi, créer l'envie, il faut aussi accompagner aussi en termes de formation, aussi en termes d'augmentation, etc. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, l'idée, c'est d'essayer de garder cet aspect accompagnement avec des subventions et de trouver un équilibre économique en travaillant avec les entreprises, pouvoir proposer peut-être justement des prestations qui sont plus tournées vers les entreprises. Pas forcément que du prototypage rapide, comme on peut le voir dans les Fab Labs, la série, etc. Mais essayer de trouver un petit peu des espaces de coworking partagés qu'on peut mettre en location, faire des formations, un peu cohésion de groupe, cohésion d'équipe pour les entreprises. Il y a plein d'idées, donc ça c'est trouver un équilibre. Ça faisait d'ailleurs partie de la labellisation Fabrique numérique du territoire, ça faisait partie de notre modèle qu'on avait proposé. On avait dit que à horizon 2023, on souhaitait avoir à peu près 30% des revenus qui étaient sur autour des prestations entreprises et associations. Donc ça c'est à venir, c'est un très gros chantier, parce que ça veut dire que si on va vers l'accompagnement aux entreprises, il faut aussi avoir, faut être solide, il faut proposer quelque chose de plus pro, il faut être en capacité, il faut être réactif, il faut être en capacité de répondre rapidement et professionnellement. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas, mais on y travaille. Voilà.
Olivier, il faut que tu ailles préparer ton
agenda. Il faut que j'y aille. Là.
Merci. C'est enregistré, donc on va faire un papier, un article à partir de ça. Comment transformer un Fab Lab en tiers-lieu, en lieu tiers.
Mais n'hésitez pas, voilà, aussi à poser vos questions à André, si jamais vous en avez d'autres. Et puis, voilà, j'ai le temps. On échange régulièrement avec André. Donc, voilà, s'il n'y a jamais un autre échange comme ça, c'est agréable d'être. Parce que des fois, les visios avec, on en parlait tout à l'heure avec André, avec 100 ou 200 personnes, c'est pas toujours très, très simple. Mais des visios comme ça, la prochaine fois, promis, je prendrai plus de temps et j'aurai pas mon âge après. Mais n'hésitez pas à poser vos questions à André, puis j'essaierai d'en parler avec lui. Puis voilà.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci. Bonne continuation, bon échange et à très bientôt. Et bon courage dans vos projets.
Oui. Au revoir.
Merci à toi.
Bien, écoutez, chers collègues, on a un petit peu de temps devant nous. Alors, je pense que ça peut susciter pas mal d'échanges, de réactions par rapport à tout ça. Alors, Marilène, Philippe, Lydie, Julie, Laurence, Cécile, moi, j'ai plein de choses à dire, mais comme je vais essayer de me taire un peu. Donc...
Je voulais juste prendre un petit coup la parole. Cécile, lui, moi, je travaille à Pôle emploi et je suis toujours extrêmement envieuse de toutes les initiatives qui se font sur notre territoire national de dimension collective. Parce que vraiment, en tant que psychologue, quand on est arrivé à Pôle emploi, c'était la désespérance de l'isolement, de la solitude, de l'invisibilité. Et là, je constate que à l'extérieur de cette institution, ça bouge, c'est vivant, il y a toujours des initiatives. Et j'entends des partenariats avec les missions locales, j'entends zéro partenariat avec Pôle emploi et ça me désole. Il n'y a qu'avec vous que je peux partager ça.
Oui. Je pense qu'Olivier, il aura un partenariat avec Pôle emploi un jour ou l'autre. Mais alors après, ça pose toute la question de la verticalité. Tu le sais bien, Sylvie, Pôle emploi est impliqué aussi dans des Fab Labs, dans des labos, etc. etc. mais ils sont plutôt conçus dans une cellule d'ingénierie nationale et ils sont déclinés après. Ce que je trouve intéressant de partager avec vous, c'est une expérience de terrain qui, je ne l'ai pas raconté parce qu'il va rougir, mais Olivier, il a porté le truc depuis le début, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui a réussi à tisser un truc qui est juste fascinant à observer. Hein. Voilà, après, et je trouvais intéressant de voir que, on parle de verticalité, on parle plutôt de partir du terrain. Je crois qu'Olivier, il était lui-même service civique à un moment donné. Donc, c'est aussi une belle expérience personnelle aussi de construction. Et je trouve que c'est intéressant de partager ça parce que ça peut rendre optimiste. Alors, juste, il a cité l'exemple. Alors, encore une fois, c'est des rencontres. Hélène Guizou, Mission Locale, Bretagne. Alors, peut-être que c'est la Bretagne aussi qui est un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérience sur les low-tech, par exemple. C'était dans un lieu très particulier où l'écologie très importante, le soin de la... Et il y a beaucoup, beaucoup de pratiques collaboratives avec des associations multiples, hein, en fait, qui se fédèrent. Donc, c'est peut-être aussi, il y a des territoires dans lesquels c'est plus propice que d'autres. Hein. Je me tourne vers Marilène, c'est aussi... c'est vraiment très chouette l'idée de... Je rencontre le jardin. Alors, c'est marrant, le jardin partagé, on en a parlé avec qui dit déjà à un moment donné, et en fait ils font juste un tout petit truc, c'est-à-dire qu'ils vont dans un lieu où les habitants sont là, quoi. C'est juste ça, quoi. Et ils discutent les coups avec eux, et là ça produit le truc. Dès que tu produis une offre de service descendante à ce public là il n'y a aucune chance. Donc ça veut dire que le lieu, il faut le fabriquer, est-ce qu'il existe déjà, est-ce qu'il faut juste y être à un moment donné? C'est tous les enjeux des territoires aujourd'hui. Je pense aux maisons familiales rurales aujourd'hui dans le cadre du projet 3D par exemple, où on a beaucoup de mal à récupérer du public, et on a une difficulté aussi parce que en fait on essaye de promouvoir des trucs d'en haut en fait à des publics qui voient vraiment pas l'intérêt, etc. Et je trouve que trouver des modalités moins verticales où on est très proche des habitants pour essayer de fabriquer quelque chose avec eux, on peut tous convenir que c'est ce qu'il faut faire. En même temps, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Et je trouve que on est rendu là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'initiatives et en même temps, c'est pas parce qu'on a des initiatives descendantes que les gens vont être captés. Alors, je pense que c'est la réflexion.
À la fois, c'est rassurant de voir l'expérience d'Olivier parce que. Nous, l'expérience qu'on a, elle a 6 mois de vue sur la mobilisation des publics et sur notre intervention sur l'espace public sans médiatisation aucune. Et à la fois, là, je me dis, ça me remobilise, concrètement. Et, on voit des modalités de rencontre dans un premier temps et des modalités d'accompagnement qui sont en train de se mettre en place sur les territoires. Effectivement, moi, le jardin, je trouve ça super parce que on s'intègre dans des dispositifs existants qui sont de l'éducation populaire, hein, concrètement, quoi. On fait des porteurs de parole, des porte-à-porte aujourd'hui et des excursions professionnelles qui sont de l'éducation populaire, plus ou moins, et on capte des publics qui ne sont pas aujourd'hui dans des dispositifs de droit commun. Ça, c'est ma première constat de 4 mois d'expérience. Et le deuxième constat, c'est aussi ce qu'Olivier a dit quand il parlait de la garantie jeune, c'est qu'on crée des collectifs d'ambassadeurs et d'influenceurs sur les territoires.
Bien sûr.
Et donc, on est en train là aussi, notamment aussi sur les missions locales de la Gironde, de recruter, entre guillemets, des ambassadeurs qui iront avec nous sur l'espace public pour aller vers les publics dits empêchés. Mmh. Et on les forme sur des outils d'éducation populaire. Mmh. On tente aussi ce truc-là et on se dit pourquoi pas. Et j'ai l'impression que ce que raconte Olivier, c'est une expérience réussie sur ce champ-là.
Oui, en même temps, qui est pas, enfin moi pour avoir,
qui est pas facile. Hein.
Qui est, enfin, vous avez les élus aussi derrière, hein, pour lesquels il faut que ça.
Et bien évidemment, effectivement,
il y a la notoriété, il faut que ça. Et il a eu la chance, sans doute, d'avoir aussi dans sa collectivité des gens qui l'ont suivi, quoi, ou qui l'ont porté, peut-être même qui l'ont soutenu, parce que c'était pas gagné, quoi.
C'est ça. Oui, on se prend des scuds. Hein.
Oui, et puis il y a des questions qui sont. Là aussi, on est incapable de dupliquer quelque chose qui peut fonctionner. Donc, ce qui est très compliqué, c'est que les territoires ont leur propre vitalité, leurs propres ressources, leurs propres faiblesses, et que si tu ne peux pas dupliquer un modèle, comme quand tu animes un collectif dans un dispositif de coaching ou d'accompagnement de bilan de compétences, ce que tu fais un jour et ce que tu fais le lendemain, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a la question aussi d'une espèce d'ingénierie des contextes, là, que je trouve extrêmement intéressante. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je trouve intéressant qu'on échange là-dessus, parce que je trouve que la question des espaces de rencontre, alors c'est une grande banalité de dire ça, et Philippe l'a très bien montré, mais faire tribu, c'est le seul truc qui reste aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que se sentir appartenir à un collectif dans lequel on se sent contributeur et non pas uniquement destinataire, ça me paraît un enjeu crucial. Comment les gens se sentent non plus actifs, mais contributeurs. Ce que je trouve très intéressant pour moi, avoir accompagné l'équipe, les jeunes de la garantie jeune, ils étaient d'abord plutôt clients dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ils étaient actifs. Et dans un troisième temps, ils étaient partie prenante. Mais le passage et souvent on confond les deux. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es actif de quelque chose que tu es partie prenante. Et être partie prenante, c'est amener une contribution à un collectif auquel tu te sens appartenir et dans lequel tu peux être fier d'appartenir. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Philippe sur la tribu, c'est que peut-être on a réimaginé des logiques d'affiliation qui sont plus de l'affiliation à une conception de la puissance publique telle que ce serait s'inclure, mais plutôt une affiliation localisée, circonstancielle, voire éphémère, dans laquelle les gens peuvent se sentir appartenir, reconnus, soutenus à leur hauteur, quoi. Je viens d'interviewer Jérémy Alfonsi, là, qui était là sur Être jeune aujourd'hui, et on va publier un papier avec lui, et c'est très intéressant aussi ce qu'il dit sur le fait qu'il y a un moment donné, il faut prendre des stratégies de détour, quoi. On veut trop aller directement sur des choses et qu'il faut prendre le temps de la divergence, quoi. Et il me semble que ça, c'est vraiment un enjeu.
Et dans les modèles économiques, il faut que les gens discutaient vendredi avec la région Nouvelle-Aquitaine, il faut que le temps soit présent.
Oui.
On ne peut pas faire tribu sans avoir le temps.
Bien sûr.
Du coup, effectivement, on voit les éducateurs de rue aujourd'hui qui mettent un an avant de… tout le travail de tapage, par exemple, c'est un travail de dentelle, quoi, de temps.
Oui, les tapages a mis 5-6 ans jusqu'à ce que l'État ou une région accepte de simplement y porter un regard dessus, quoi. Mm. Et mon collègue, après le Québec, arrive à le transposer en France, c'est 5 ans de travail, quoi. Pour arriver à simplement à communiquer l'idée, quoi, que ça peut être intéressant, quoi. Par contre, là où je trouve intéressant, c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'Olivier vienne, c'est que je pense qu'on est dans un moment propice. C'est-à-dire que le post-Covid, il réactive, il amplifie, Philippe l'a dit, il amplifie des choses, en fait. Et sous nos yeux, là, il y a des vitalités territoriales, il y a des vitalités de contribution qui sont relativement nouvelles. Et il y a des publics qui ne veulent plus aller sur les dispositifs formatés. Moi, je vois en région PACA, je suis président d'un comité d'innovation, on n'a personne sur certains dispositifs. Hein. Les gens se tirent la bourre pour avoir des stagiaires, hein. Ce qui veut dire que les personnes elles sont potentiellement ailleurs. Quoi. Et la puissance publique est en train de se rendre compte que la mobilisation des publics, c'est le sujet du moment. Quoi. Et que ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent que les gens vont être mobilisés. Mais je pense que pour un CCAS, c'est la même question, Lydie. Enfin, voilà, c'est comment on mobilise le public.
Ouais, ouais, et puis la question de la durée, parce que nous, on n'a pas, quand tu as beaucoup d'accompagnement,
oui,
c'est très compliqué d'accorder du temps à tout le monde. Et, oui, et quand tu dis aux élus, bah, en fait, l'innovation, c'est peut-être l'humain, en fait, c'est peut-être, oui, juste un peu de temps, et ben, c'est pas forcément super entendu. Et l'innovation, bah, c'est plutôt. Ouais,
rapide.
Voilà, c'est rapide, c'est beau, ça claque, mais ça ne peut
pas. Et ouais, pas d'humain. Il y a le sujet. Des collègues n'ont pas réagi. Vous avez tout à fait, Laurence, Julie, vous avez tout à fait le droit de, voilà, d'intervenir.
Moi, je peux réagir. En fait, moi, Laurence et moi, on travaille ensemble. Donc, elle pourra compléter si elle le souhaite. Nous, on est, en fait, on pratique, on va dire, essentiellement là pour simplifier de l'accompagnement en bilan de compétences. Et en fait, là, on a pris conscience de la notion des tiers-lieux en animant en fait des ateliers tout simplement ailleurs qu'au cabinet parce qu'on n'avait pas de place. Et on a vécu tout l'intérêt en fait pour les bénéficiaires de se déplacer. Et en fait, on ne s'est pas donné le mot avec Laurence, mais je pense que l'une comme l'autre, on s'est inscrite parce que ça nous permet aussi de continuer à réfléchir cette notion de qu'est-ce qui se passe quand on les fait se déplacer et aussi qu'est-ce qui se passe quand on les amène à se réunir. Et là, quand tu évoquais le fait de passer de, alors je vais le dire avec mes mots à moi, de consommateur à actif, alors, voire, oui, contributeur. En fait, ça, on voit des phénomènes comme ça qui se passent avec des bénéficiaires qui se retrouvent, qui on découvre et ils ont continué à se voir après les ateliers. Et voilà. Et là, je voudrais reprendre une chose qu'on a mise en place dans le cabinet que j'ai dû arrêter là depuis un an, c'est des apéros qui sont gratuits, dans lesquels peuvent s'inscrire toutes les personnes qui sont passées par le cabinet. Et il y a pareil des liens qui se créent. Alors nous, on n'est pas vraiment, enfin dire, c'est pas un tiers. Enfin, on n'a pas construit un tiers lieu en tant que tel, mais c'est de réfléchir à comment un peu pousser les murs du cabinet, pousser les murs de l'accompagnement pour créer de nouvelles dynamiques qui peuvent aussi aller dans l'accompagnement marchand.
Oui.
Par exemple, que tu connais bien, André, parce que je crois que tu l'as pratiqué. Voilà, donc ça nous nourrit. Enfin, je dis nous, je parle au nom de Laurence, mais en tout cas, et là de voir, alors nous, on est effectivement pas du tout un Fab Lab, mais le côté très 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 humain et de comment dynamiser. Moi, je suis même en train de me poser la question aujourd'hui, juste de la faire tourner, que serait le cabinet, donc qui s'appelle la croisée des chemins, sans cabinet physique.
C'est un sujet, ce que tu évoques. Par exemple, si on avait eu le temps, j'aurais évoqué d'autres dispositifs qui se développent. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de marche apprenante, par exemple, le fait que voilà, des gens qui ont déposé des copyrights sur des choses qui sont juste de la balade itinérante dans laquelle on discute le coup. Quoi, hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question de la délocalisation, c'est-à-dire aller dans un lieu tiers. Là, c'est pour ça que le lieu tiers est très intéressant parce qu'il produit quelque chose qui est au fond une connivence liée à un lieu. Et ce lieu peut être un beau lieu, etc. Discuter avec quelqu'un dans la garantie jeune, qui le seul truc où il s'est passé quelque chose, c'est quand ils ont été visiter la lune du Pilat avec les ados, quoi. Autrement, il ne se serait rien passé dans l'institution elle-même. Puis, une deuxième chose, c'est le mouvement. Et il me semble que la question du mouvement, la marche, le déplacement, le jeu, etc., sont aussi propices à des modes de relation qui sont différents. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de réflexion qui est menée aujourd'hui sur le fait à quoi sert un lieu fixe, dans les processus d'appropriation et d'engagement. Est-ce que les processus d'appropriation et d'engagement ne sont pas plus corrélés en fait, à la question du mouvement et à la question du lieu tiers ? Pourquoi ? Parce qu'ils facilitent la contribution à plusieurs. et donc qui facilite l'intelligence collective. Alors, Olivier, il conceptualise pas, enfin, c'est pas son objet de conceptualiser. Lui, il fait des trucs spontanément. C'est pour ça qu'il est passionnant. Mais en même temps, il fait des trucs il a des intuitions géniales sur le fait qu'il capte immédiatement ce qu'il va falloir faire sans forcément conceptualiser. Alors, ce qui était rigolo avec lui, c'est que moi, je faisais les concepts et lui, il faisait la réalité, quoi. Et c'était un duo assez rigolo avec les élus. Mais juste pour reprendre ce que tu dis, c'est-à-dire que on s'en fout de faire un tiers-lieu. C'est pour ça que pour moi, l'argument du tiers-lieu, c'est plutôt l'argument de qu'est-ce que ça nous dit dans les pratiques d'accompagnement. Et ça nous dit que le lieu tiers, il est important parce qu'il n'est pas institutionnel, qu'il facilite la contribution, il facilite la mobilisation des personnes. Et est-ce que le mouvement produit quelque chose? Ben oui, le mouvement produit quelque chose parce qu'en fait, c'est la définition même de l'accompagnement, c'est aller avec quelqu'un à côté de quelqu'un. Et je trouve qu'on ne réfléchit pas assez à ces questions-là aujourd'hui. Il y a des lieux où c'est interdit de quitter son bureau, par exemple, on pourrait parler de Pôle emploi. Hein, et c'est là où des lieux où c'est très compliqué, Sylvie, d'essayer de mobiliser des activités un peu différentes, alors qu'il s'y passe des choses et qu'il y a des gens qui sont, ce que disait Jérémy Alfonsi très très bien, il y a des lieux qui ne sont pas propices en fait à la parole pour les gens.
Ça me fait plaisir que tu dis ça. Ça me permet de conscientiser une action qu'on n'a pas montée parce qu'on s'est appuyé sur une asso qui l'a montée, qui pourrait peut-être être intéressante à rencontrer. Ça s'appelle En route vers le permis. Mmh. Et en fait, dans la voiture, ils ont réussi à. Enfin, elle arrive à dénouer des trucs de violence conjugale, etc. Du coup, ils ont embauché une psycho. Ouais. En fait, qui pour le coup fait plus le code, mais aussi le relais de ce qui se passe dans la voiture avec la monitrice auto-école, ouais. Et c'est ouais. Assez incroyable quoi, ce qui peut se passer.
Dans le road movie, c'est le lieu idéal. Rêve de faire du bilan de compétences en voiture quoi.
Donc... Et ben du coup, elle part avec à un moment donné dans son apprentissage, elle fait ça sur 3 mois, elle fait de l'apprentissage concentré. Elle part à un moment avec tout le monde, et c'est là en effet souvent que c'est là que se débloquent des trucs.
Ce que racontait notre collègue justement du collectif, la Fred Pérou, quand ils ont fait leur projet européen, qu'ils sont allés en Grèce, ils sont allés en bus en fait. Et en fait, toute l'aventure, c'est pas d'aller en Grèce, c'est le bus, quoi. Et pourquoi? Parce que tu as des aventures incroyables, tu découvres les gens différemment, etc. Donc la question du mouvement, la question d'aller quelque part, et la question de la manière dont on va cohabiter dans ce déplacement est extrêmement intéressante. Mais les Eluxpé, ils connaissent ça depuis tout le temps. Comment dire, c'est des vieux trucs de l'éducation populaire et c'est aussi des trucs très basiques du travail social. Tu connais bien Lydie. Simplement, on les a un peu perdus de vue quand même. On les a un peu perdus de vue. Le café, tous les lieux de rencontre, les lieux publics, les places publiques, etc. On a tellement été obsédés par les bureaux confidentiels, aseptisés, etc. Qu'il y a des publics qui ne vont plus venir. Mais ça me fait aussi penser aux maisons familiales rurales, la manière de penser une classe, par exemple, la manière de penser le mouvement dans une classe, de penser les interactions, de penser les lieux de classe, de penser la mobilité des lieux, de penser des choses pour que ça respire, pour que ça circule, etc. Me paraît un vrai challenge aujourd'hui dans nos métiers. Quoi. Mireille, je suis sûr qu'elle veut dire quelque chose.
La fonction d'enseignant aussi. Oui.
En fait, je vais rebondir sur plusieurs choses, mais surtout sur ce qui vient d'être dit, effectivement, puisque là, je viens de participer à une grosse expérimentation sur la métropole de Lyon, où ils ont voulu embarquer justement six groupes, je crois, en parallèle, six ou sept groupes de 12 personnes en parallèle, qui ont eu droit à une POE exclusivement axée compétences comportementales. Ça s'est passé de telle manière, alors là, quand il a dit Olivier, il vaut mieux partir du petit pour aller vers le grand, ben oui, bien sûr, parce que 80 personnes à la fois, la veille d'un nouveau confinement, trouver des stages pour 80 personnes, etc., c'est même pas la peine. Et effectivement, ce qu'on a regretté, c'est que nous, d'ordinaire, et ça, c'est l'action que j'ai reprise depuis le début du mois sur le sud-ouest lyonnais, où là, on les voit un seul jour par semaine, mais par contre chaque après-midi, donc tous les mardis le matin, on est ensemble, on travaille le projet professionnel, la connaissance de soi. Les après-midi, systématiquement, on est à l'extérieur, et c'est soit aller expérimenter un sport, soit aller visiter une entreprise, rencontrer un acteur économique, et on mange ensemble. Et alors, donc, le temps du déplacement, bien sûr, parce que là, c'est un territoire un peu compliqué sur la métropole de Lyon, où il n'y a pas vraiment de bus, plusieurs ont des voitures, et j'ai vu que spontanément, ils se proposaient de se covoiturer pour ceux qui n'avaient pas de voiture. Donc, ça crée effectivement des solidarités, ça renforce des choses entre eux. Le groupe précédent était dans un coin un peu plus facile, puis il se trouve qu'on avait plein de visites immédiatement à côté. C'est le groupe qui m'a dit « Mais Mireille, on peut y aller à pied ?» Donc, on a passé notre temps à se balader à travers l'autre ville de banlieue. Donc, ça a mis une énergie incroyable dans le groupe aussi. Et là, dans l'autre groupe, on en a eu trois en parallèle où ils étaient donc 3 mois sur le même site. Alors, quand même, j'avais introduit ça en les emmenant justement un atelier de réparation de vélo, un atelier de couture solidaire, etc. On a voulu un Fab Lab. Malheureusement, à Lyon, il n'y en a plus pour l'instant. Donc, c'est l'animatrice du Fab Lab qui est venue à nous faire une petite animation, mais ça n'avait pas du tout la même portée, effectivement, qu'elle vienne à nous et que ce ne soit pas nous qui allions vers elle dans son lieu. Donc, oui, l'idée de sortir, l'idée d'avoir les temps intermédiaires de repas, etc. Ouais, tout ça nourrit énormément. On ne peut pas se contenter juste de les accueillir, de travailler à 12, etc. et de les renvoyer chez eux.
Ouais. Ce qui est aussi intéressant, c'est la place de l'informel dans la construction de la mobilisation. Et oui. Alors encore, on découvre un truc de la vie, quoi. C'est la question de l'apéro, quoi. Voilà.
Oui.
Les terrasses et l'apéro, c'est quand même le lieu le plus propice pour développer des pratiques conversationnelles qui sont aussi des pratiques d'engagement, quoi. Et on redécouvre ça, c'est assez fascinant. Alors maintenant, on le théorise, mais c'est fascinant quand même que. Enfin, moi, le petit village de Saint-Mandrier où je suis, moi, le tiers-lieu, c'est le terrain de boule, quoi. Ils n'ont pas besoin de tiers-lieu. En fait, le terrain de boule, c'est le lieu de la rencontre. Hein, et du coup, qui est un peu excluant pour les jeunes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus que les vieux qui viennent. Mais ça pose la question de l'existence préalable de lieux qui étaient tiers, qui sont des lieux de solidarité, de reconnaissance, de tribu, en fait. Philippe, tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Il me semble.
J'avais coupé mon micro. Non, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'MFR. Je voulais dire aussi que la fonction des enseignants, de formateurs, n'était pas réservée uniquement à l'enseignement, mais aussi à l'animation et l'écoute. Donc, ça complète ce que tu disais, c'est tout.
Merci beaucoup. D'autres réactions, peut-être ? Merci Mireille, merci Céline. Julie, tu peux parler si tu veux. Lydie, Marie-Hélène. J'avais dit 17h30, il est 17h30.
Mais moi, je dirais non, très contente de ces échanges. Oui. Voilà, contente d'avoir pu ouvrir un peu les façons de faire et toujours contente d'apprendre et de découvrir. Voilà, rien de plus. Merci pour ces partages.
Merci. Marinette, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non, j'ai rêvé, non. J'entends des voix des fois.
Non, si on arrive après à faire un récit des pratiques de tout ça, c'est génial, quoi. Voilà. Une espèce de ressourcerie des compétences d'accompagnement et de rencontre surtout.
Ouais.
Oh là là, ça serait merveilleux. Je veux bien contribuer.
Oui, c'est parce que j'ai discuté avec Nathalie sur la question de la ressourcerie. Alors, c'est marrant qu'on parle ça et je me dis peut-être que nos webinaires pourraient être des ressourceries.
Voilà. Mon Dieu, oui.
Je trouve que voilà, tout ce qu'on a échangé là, dans un temps relativement court, hein, c'est pas énorme. Hein.
Mais c'est vraiment bien.
Ça ouvre les chakras un peu, ça permet d'avoir des idées et que voilà, on va réfléchir à ça, on va essayer de solliciter les collègues pour voir comment on pourrait. Parce que, en fait, c'est le problème de la ressource vivante qui est quand même différente. Dès qu'on fait des fiches actions, on perd les gens, quoi. Donc du coup, ça pose la question de la capacité à les faire vivre. C'est pour ça qu'on a enregistré Olivier. Il tenait beaucoup à ce qu'on enregistre parce que j'ai plusieurs collègues plusieurs adhérents qui voulaient absolument participer et ils étaient ailleurs. Donc, ils vont pouvoir réécouter. Je pense que c'est intéressant de réécouter. Je vous enverrai le lien si vous avez envie d'écouter.
André, ce qui contribue aussi, je pense, c'est le format. Le fait qu'on soit le nombre que nous sommes, en tous les cas, pour moi, facilite la prise de parole et l'implication. C'est pas exactement la même chose quand on est à distance et qu'on est 75. Oui. Ça crée quand même une distance, alors que là, par le nombre, les sujets aussi. Mais vraiment, le nombre, je pense, qui contribue aussi à l'envie, alors déjà à ta sollicitation, puisque tu vas dire « Ah tiens, peut-être que tu voudrais dire », et la prise de parole, elle est facilitée, alors que si on est nombreux, oula, c'est pas si évident que ça de prendre la parole, alors qu'en grand groupe ou en groupe moyen comme à Orléans, ben, on se sent plus à l'aise, on s'est vu pendant quelques heures, quelques jours, et hop, on a envie d'échanger, de participer. Là, à distance, quand on est 75-80, c'est plus difficile. Le format de 10-15, il facilite en tous les cas pour moi la prise de parole.
Oui, ben absolument, Sylvie. D'ailleurs, je ne fais pas de pub démoniaque, hein, vous avez remarqué, hein, parce que 10-12, c'est parfait pour moi. Et je trouve que ouais, sur un format d'une heure et demie, autrement, c'est trop compliqué. Quoi. Et du coup, c'est frustrant pour tout le monde. Alors que voilà. Mireille ?
Oui, je voulais rajouter deux choses. La première, bah, qu'en fait, on pourrait aussi avoir une chaîne YouTube qu'elle voit.
On en a une, mais il n'y a que les vidéos préenregistrées qui sont dessus. Donc,
Sur lesquelles tu pourrais aussi mettre celle-ci,
oui.
Avec un petit travail d'indexation, bien sûr. Et c'est marrant, ça c'est une pirouette ou une anecdote. Quand j'étais étudiante, il y a 30 ans, je me posais la question de faire un DESS à l'époque en urbanisme sur la place publique. Alors que j'étais en communication, je ne savais pas que je ferais un jour ce métier-là. Et là, ce qui s'est dit me ramène à ça, effectivement, à la place publique au sens du lieu de rencontre, sachant que je suis à Lyon et que je voyais la place Bellecour. Je me disais en quoi c'est un lieu de rencontre. Et... Oui. Bon, il y a d'autres places publiques à Lyon, mais je ne savais pas à l'époque.
Je pense qu'on revient à des questions des biens communs et des lieux communs. C'est-à-dire que dans un moment où on est beaucoup, beaucoup harcelé sur notre propre capacité à construire des projets individuels, etc., donc dans une logique obsessionnelle de la singularité, les projets, etc., je pense que clairement, après le Covid, les gens, ils ont aussi besoin d'une épaisseur collective, ils ont aussi besoin de lieux de rencontre, ils ont besoin de lieux informels dans lesquels les choses ne sont pas programmées, planifiées. Et en fait, c'est un moment un peu ouvert à la sérendipité, hein, où on peut clairement... faire des rencontres et élargir ses points de vue. C'est peut-être l'idée d'une ressourcerie qu'elle voit, qu'il pourra imaginer avec une chaîne YouTube et que je vous propose dont on tire le fil. Je pense que ça peut plaire à Philippe aussi, ça, hein, comme idée.